Et 19h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et ce soir, nous évoquons ce qui fait la une de l'actualité depuis samedi dernier. Après que l'Iran a mené un raid sans précédent contre Israël, la tension depuis reste très forte entre les deux pays, faisant craindre le risque d'une escalade dans la région, évidemment dans le contexte de la guerre à Gaza qui dure depuis plus de 6 mois. Notre question ce soir, est-ce que Téhéran peut devenir le porte-parole de la cause arabe? Car ça y est, l'Iran est directement intervenu, alors que jusque-là, l'Iran multipliait les fronts, en Irak, au Yémen notamment, mais l'Iran restait à distance. Est-ce que la cause arabe, et en premier lieu la cause palestinienne, peut être grand gagnant de l'évolution iranienne? Jusqu'où Téhéran mobilise-t-il? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités. D'abord à mes côtés en studio, Sophia Marouk, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorante en histoire contemporaine de l'Iran à Sorbonne Université et à l'Université du Luxembourg, enseignante à Sciences Po. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Bonsoir David Rigoulet-Rose.
Bonsoir.
Chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, et puis rédacteur en chef de la revue Orion Stratégique. Et notre troisième invité est Fatia Dazieni. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pour commencer, David Rigoulet-Rose, quelle analyse vous faites de cette attaque iranienne samedi dernier qui intervient donc après, alors je vais citer les mots des autorités iraniennes, la patience stratégique qui faisait référence à ce que j'évoquais, donc le fait que Téhéran jusque-là n'intervienne pas directement. Que signifie selon vous le raid qui a été mené le week-end dernier?
Ah, c'est incontestablement un tournant, il y a une rupture stratégique, parce que comme vous le soulignez, c'est la première fois que, d'une certaine manière, on sort de la guerre de l'ombre qui prévalait jusque-là, dans la mesure où la stratégie iranienne reposait sur le plausible deniability, c'est-à-dire le déni plausible, via ses mandataires pour frapper les intérêts israéliens. Et là, pour des raisons qui sont liées à un problème de dissuasion, Téhéran a considéré qu'il n'avait d'autre choix en fait que de rentrer directement dans la conflictualité et sans passer par ses mandataires. Donc il y a, de ce point de vue-là, il y a incontestablement un point de non-retour, une officialisation de cette conflictualité qui jusque-là était plus ou moins masquée. Mais effectivement, ça constitue aussi une rupture stratégique, quoi qu'on ait pu dire sur les modalités de la réplique, son échec militaire pour certains, puisque ouais. 99% des tirs auraient été arrêtés. Mais sur le fond, c'est pas le problème. Sur le fond, c'est que ça induit potentiellement une logique escalatoire dans l'attente d'une possible, sinon probable, réplique israélienne.
C'est d'abord symbolique, cette attaque, parce que l'Iran n'a pas voulu faire mal, entre guillemets. Comme vous dites, 99% des missiles, des drones ont été interceptés par Israël.
Oui, mais c'est présenté comme un succès technologique, effectivement, d'interception. C'est incontestable. Mais le problème, c'est que, comme le souligne d'ailleurs Téhéran, ce ne sont pas les missiles les plus performants qui ont été utilisés. Il y avait un laps de temps de plusieurs heures, ce qui permettait une interception. Et le calcul iranien a pris en compte cette variable. Il ne s'agissait pas de faire des dégâts incommensurables, parce qu'à ce moment-là, ça impliquait mécaniquement une logique escalatoire. Donc, ça a été pensé. Mais le problème, c'est que la décision même effectivement de le faire en assumant la frappe change. Il y a une réécriture de la grammaire stratégique régionale qui est induite par cet événement.
Jusque-là, l'Iran passait par ses mandataires, vous avez dit. Mais alors, qui sont les mandataires de l'Iran? Ce sont les milices pro-iraniennes en Irak, ce sont les Houthis au Yémen, c'est le Hamas à Gaza?
Oui, c'est ce qu'on appelle l'arc de la Mukawama, c'est-à-dire de la dite résistance à Israël, qui regroupe une myriade de groupes solidaires du Hamas, groupes sunnites quand même, il faut le souligner, alors que l'arc des autres groupes et d'obédience chiite, en l'occurrence effectivement le Hezbollah du Liban, les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak, et les Houthis zaïdites. Alors c'est pas le chiisme iranien, mais enfin ils sont de plus en plus iranisés, on va dire, et donc il y a effectivement une logique d'encerclement justement par cette résistance de la Mukawama menée par Téhéran.
Sophia Marouk, vous qui êtes doctorante en histoire contemporaine de l'Iran, est-ce que vous savez comment l'opinion iranienne a perçu cette attaque de Téhéran le week-end dernier ?
Oui, alors c'est toujours compliqué d'évaluer avec grande précision l'opinion publique iranienne parce qu'on a très peu d'accès au terrain aujourd'hui. En revanche, on a vu des scènes de raillerie, en fait, hein, d'une partie de la population iranienne qui est assez fatiguée, je dirais, des manipulations téhéranaises et des craintes et des actions qui provoqueraient potentiellement une escalade. Donc, cette opinion iranienne, elle est très morcelée. Vous avez forcément des gens qui soutiennent le régime et plus précisément les actions des gardiens de la révolution dans cette entreprise. En revanche, il faut garder en tête que cette opinion publique iranienne est très différente de l'opinion publique arabe de par son histoire. Parce que l'opinion arabe, et d'ailleurs on a vu un sondage a été publié au Centre arabe de recherche et d'études politiques, qui a interrogé plus de 8000 personnes sur 16 pays arabes. Ces personnes-là sont largement défavorables à la guerre entre Gaza et Israël, bien évidemment, mais également largement défavorables au maintien d'Israël dans la région. C'est très différent de la politique arabe menée, de la politique des États arabes menée. Donc ici, on voit une grosse différence déjà entre l'opinion publique iranienne, les opinions arabes et les agendas diplomatiques des États arabes qui sont plutôt pour un rapprochement avec Israël en majorité.
Mais dans l'opinion iranienne, est-ce qu'on soutient le défi lancé à Israël avec l'attaque du week-end dernier majoritairement, vous avez dit il y a plusieurs sons de cloche, mais qu'est-ce qui est majoritaire? C'est difficile à savoir.
Oui, et puis je pense que c'est une erreur d'affirmer sans vergogne, qu'il y a une majorité.
Fatia Dazieni, vous êtes chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique. Pardon. Dans ces pays-là, comment est-ce qu'on a observé l'attaque de Téhéran le week-end dernier contre Israël?
Du point de vue des dirigeants?
Alors, je n'ai pas entendu votre question.
Non.
Du point de vue des dirigeants, je crois que c'est ça. Oui, tout à fait. Non, des dirigeants.
Ben, écoutez, ils sont quand même dans une situation très compliquée parce que certains médias, notamment israéliens et américains, affirment que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont également participé, intercepté des tirs de missiles et de drones et échangé des informations. Ils font profil bas. Alors, ils nient, mais par médias interposés. Mais il y a eu quand même des communiqués pour dire que les tirs de drones et de missiles en partance de Téhéran ne sont pas du tout passés par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, mais par l'Irak, la Syrie, la Jordanie et la Syrie. Donc, il démente complètement cette participation pour intercepter ces tirs de drones et de missiles. En revanche, ils reconnaissent qu'effectivement, ils échangent des informations avec leur allié américain. Et ça, évidemment,
ça va pas plaire à l'Iran.
Parce que c'est conduit dans le cadre du central CENTCOM, cette base américaine, hein, vous savez, qui est stationnée au Qatar et qui installe un peu partout des systèmes de radar et d'alerte précoce pour détecter et tracer donc des tirs de drones et de missiles. Donc forcément, ces systèmes sont intégrés et communiquent entre eux et donc s'échangent les informations. Donc l'attitude, c'est profil bas. Et ils sont extrêmement gênés aussi par ce narratif israélien qui consiste à présenter finalement cette victoire d'interception de 99% des missiles et des drones comme une nouvelle alliance israélo-américaine et arabe.
Ce que vous nous dites, finalement,
vis-à-vis de l'opinion publique, c'est
différent.
Compliqué.
On va y venir à l'opinion, parce qu'évidemment, la rue et les dirigeants, ce n'est pas du tout le même son de cloche. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, Fatia Dazieni, c'est que dans les monarchies de la péninsule arabique, qui sont des pays arabes, puisque c'est la question qui nous intéresse ce soir, il n'y a pas de soutien sans faille de l'Iran.
Ah non, mais non, c'est quand même des notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont très méfiants de l'Iran. Alors il y a des bonnes relations avec certains pays du Golfe et l'Iran, comme le Sultanat d'Oman, le Koweït ou même le Qatar. Mais même si les relations sont renormalisées entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et les Émirats et l'Iran, la méfiance entre ces pays est encore très forte. Hein. Mais ils veulent quand même maintenir un équilibre, c'est-à-dire que il est sûr que voir que les États-Unis soutiennent inconditionnellement Israël, eh bien, de facto, ça leur bénéficie un petit peu parce que eux n'ont pas justement cette chance de bénéficier du soutien inconditionnel des États-Unis, puisque la garantie de sécurité américaine depuis les années Obama fait défaut, et donc les relations avec les États-Unis se sont détériorées, un manque de confiance. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite aujourd'hui met sur la balance le fait de ne pas stopper les négociations de normalisation avec Israël par le fait d'obtenir un pacte de défense écrit, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un accord de défense contraignant obligeant les États-Unis à protéger l'Arabie Saoudite en cas de moindre menace. C'est la seule condition pour laquelle l'Arabie Saoudite serait prête à normaliser avec Israël. Donc il y a un jeu d'équilibre. Les monarchies du Golfe ne veulent plus systématiquement s'aligner sur les États-Unis. Ça, on l'a vu depuis l'invasion russe en Ukraine. On a vu les divergences et on a vu que les monarchies du Golfe sont restées proches de la Russie et veulent rester également, bien sûr, proches de la Chine. Chine qui a d'ailleurs facilité le rapprochement saoudo-iranien.
Illustration de ce rapprochement, ce sont les accords d'Abraham, finalement.
Pardon ?
Ce sont les accords d'Abraham, c'est une bonne illustration de ce rapprochement que vous évoquez. L'Arabie Saoudite était effectivement jusqu'à l'attaque du 7 octobre.
Non, ils n'ont pas signé les accords d'Abraham.
Non, était en cours de négociation.
Pas du tout dans le cadre des accords d'Abraham.
En tout cas, il y a des discussions qui étaient en vue d'une possible normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Oui, mais il y a eu beaucoup de surenchères pour dire que c'était quasi fait.
Ouais.
Et c'était très loin d'être fait, puisque ni le Congrès américain, ni l'opinion publique américaine ne sont prêts à avoir un pacte de défense avec l'Arabie Saoudite. Et en plus de ça, le Premier ministre israélien ne voulait faire aucune concession sur la question palestinienne, ce qui est une autre condition de la normalisation par les Saoudiens. Les Saoudiens ne peuvent pas se permettre de conclure une normalisation avec Israël dans le cadre des accords Abraham qui ont totalement exclu la solution palestinienne. C'est le pays qui abrite les lieux saints et donc c'est tout à fait pas possible.
Et évidemment, c'est la question qu'on pose ce soir. Est-ce que l'Iran peut devenir le porte-parole de la cause arabe et de la cause palestinienne en tête? Évidemment, David Rigolet-Rose, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour présenter et pour faire écho à ce que disait Fatia Dazieni, qu'aujourd'hui le monde arabe est fracturé entre le géant iranien et derrière lui Irak, Yémen, le géant saoudien avec par exemple les Émirats arabes unis?
Oui, alors c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a une disjonction entre les opinions publiques et les gouvernants, et ça vaut des deux côtés d'ailleurs, hein, puisque vous évoquiez tout à l'heure la question de l'opinion iranienne. C'est vrai que c'est difficile d'évaluer exactement, mais il y a eu effectivement des moqueries, etc., sur le narratif iranien du pouvoir par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un sentiment anti-israélien viscéral comme ça peut l'être de la part du régime. Et inversement, dans les États arabes, d'où effectivement ce qui vient d'être évoqué sur l'embarras des États arabes, a fortiori quand on souligne un certain nombre de de participation, c'est que la rue, ce qu'on appelle un peu caricaturalement d'ailleurs la rue arabe, elle est très pro-palestinienne et donc elle est en disjonction par rapport à ses gouvernants. Mmh. Et il y a un télescopage d'autant plus important que parmi ces États arabes, il y a souvent des populations chiites qui renvoient une obédience en vigueur en Iran. Donc il y a des télescopages et des allers-retours qui rendent la situation d'autant plus complexe, même si sur le fond, il est incontestable que Téhéran a d'une certaine manière préempté la cause palestinienne à son profit, justement pour fragiliser les gouvernants arabes, en jouant sur les opinions publiques, a fortiori en légitimant ce qui a été mis en la stratégie du Hamas. Donc c'est dans cet ensemble-là, il y a des télescopages et on retrouve en fait des grandes rivalités géopolitiques entre les deux géants que vous évoquez, c'est-à-dire l'Arabie saoudite qui se présente comme le fer de lance du monde arabo-sunnite, et puis de l'autre côté l'Iran qui se présente comme le soutien du monde chiite, dont une partie d'arabes. Donc on voit bien à quel point c'est compliqué.
Et comment on peut expliquer ce décalage entre les aspirations de la rue, les aspirations de l'opinion dans les pays arabes et celle des dirigeants? Est-ce que l'explication, elle tient en un mot, c'est la politique? Et de quoi cela augure-t-il?
Oui, et que vous évoquez la dynamique d'Abraham. Alors effectivement, avec le cas particulier de l'Arabie saoudite qui n'avait pas encore validé le processus, même si il y avait des négociations serrées, tout simplement parce qu'évidemment il y a eu le 7 octobre et que là ça suspend, ça n'annule pas, c'est ça qui est intéressant. Et je dirais même que, et c'est d'où l'embarras renforcé des gouvernants arabes, notamment particulièrement de l'Arabie saoudite, c'est que en réalité ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la rupture stratégique induite par la frappe iranienne, en fait va probablement conforter en profondeur le mobile qui avait initié cette dynamique. Simplement, ça pourra certainement pas être explicite par rapport à leur propre population dont ils sont obligés de tenir compte. Et donc, c'est une forme de schizophrénie très compliquée à gérer au niveau régional.
Mmh. Alors, en écho à ce qu'on dit sur finalement l'opinion de la rue, je vais citer ce témoignage d'Omar qui avait été recueilli par notre correspondant à Amman en Jordanie, après l'attaque justement de samedi dernier. La Jordanie, je cite, était censée laisser passer les missiles iraniens parce qu'ils visent notre ennemi et l'ennemi de tous les Arabes. Sofia Marroug, j'ai vu que vous lui vouliez lever
oui.
la main.
Je voudrais juste revenir sur cette lecture un petit peu du clivage sunnite et chiite qui n'est pas tout à fait correcte aujourd'hui. Parce que l'opinion publique arabe, elle s'explique historiquement. Vous avez toute une histoire de la résistance arabe face aux problèmes palestiniens, donc depuis 48, depuis la création de l'État d'Israël. L'histoire du nasserisme également, sous Nasser en Égypte, qui a tenté d'allier plusieurs pays arabes face aux guerres israélo-palestiniennes. Et également, concernant les milices iraniennes dans des territoires qui sont très morcelés, donc la Syrie et l'Irak, il n'y a pas que des milices chiites. Ça, les études en ethnologie l'ont très bien montré. On voit également des milices sunnites. Donc cette lecture-là n'est pas tout à fait exacte. Je pense que la différence des opinions entre l'opinion iranienne et arabe s'explique par des raisons historiques.
L'Iran peut-il devenir porte-parole de la cause arabe? On en parle ce soir dans le débat du jour après l'attaque de samedi dernier contre Israël. Mes trois invités, Sofia Marroug, que l'on vient d'entendre, doctorante en histoire contemporaine de l'Iran à Sorbonne Université et à l'Université du Luxembourg, enseignante à Sciences Po. David Rigoulet-Rose, en ligne avec nous, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, et Fatia Dazi Eni, chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. David Rigoulet-Rose, que change, selon vous, l'attaque de l'Iran de samedi dernier contre Israël? Est-ce que, au contraire, pour vous, ça va desservir la cause arabe, la cause palestinienne en tête?
Pas forcément, mais ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer, notamment de la réplique attendue et sous quelle forme et selon quel calendrier d'Israël, qui ne pourra pas de toute façon laisser passer ce qui est le compte tenu de la rupture stratégique que ça induit, ce qui s'est produit. Donc c'est ça la grande inquiétude, c'est l'inquiétude de la logique escalatoire. Et pour l'instant, on a l'impression que ce qui se passe à Gaza est passé au second plan, alors qu'en réalité, la situation ne s'est pas améliorée à Gaza, loin de là. Donc, et Gaza, de toute façon, est articulé à ce qui vient de se passer, puisque l'Iran n'aurait jamais pris le risque de rentrer directement dans l'arène s'il n'y avait pas eu le 7 octobre et justement la guerre à Gaza qui s'en est suivie.
Donc il y a un lien, évidemment, avec la cause arabe, mais que joue l'Iran dans ce bras de fer avec Israël ?
L'Iran joue de toute façon sa partition qui est d'affaiblir ses rivaux géopolitiques régionaux, qui sont les États arabes, notamment de la péninsule, et donc d'où en préemptant justement la cause palestinienne et en laissant entendre finalement cette cause palestinienne a été abandonnée, à tort ou à raison, par ceux qui étaient censés la défendre au premier chef. Et là, on retrouve effectivement les dilemmes du processus de la dynamique d'Abraham, puisque ceux qui ont validé cette dynamique ont été accusés d'avoir finalement laissé de côté, sacrifié la cause palestinienne, d'où l'embarras extrême des pays qui sont concernés, et au premier rang desquels l'Arabie Saoudite. Mais il faut rappeler que dans la négociation, l'Arabie Saoudite vient de rappeler en février dernier que, compte tenu de ce qui s'est passé, désormais, le paramètre économique redescendait à un niveau inférieur et il y avait une prise en compte, une nouvelle reprise en compte, on va dire, du paradigme politique et en réaffirmant le principe du fameux plan saoudien Abdallah de 2002, justement pour pouvoir offrir des perspectives et d'ailleurs qui sont aussi souhaitées par les Américains. Le problème, ça va être l'obstruction israélienne. Éventuellement sur ces perspectives, on voit bien les tensions entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu.
Fatia Dazieni, j'entends que vous souhaitez réagir. Quand David Rigoleros dit l'Iran joue sa partition, ça veut dire finalement l'Iran la joue solo et n'embarque pas la cause arabe pour vous ?
Oui, enfin moi j'aimerais surtout revenir sur une chose qu'on n'a pas du tout dite, parce que comme la réaction sans précédent de l'Iran, elle fait suite quand même à une attaque d'Israël sur son ambassade en Syrie.
Bien sûr.
C'est ça.
C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le point de départ. C'était le 1er avril.
La question palestinienne.
Bien sûr. L'Iran avait d'autres choix. Après, on est là pour essayer de comprendre évidemment ce que ça signifie et analyser.
Il y a eu 16 morts dans l'aile consulaire de cette ambassade. D'ailleurs, les pays du Golfe, comme la Jordanie, ont condamné les frappes israéliennes, contrairement aux États occidentaux, à savoir la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis.
Donc Israël a poussé l'Iran
L'Iran n'a pas accepté qu'on ne condamne pas cette violation caractéristique du droit international.
Israël a poussé l'Iran à s'engager. Mais maintenant, il se passe quoi
et que
va devenir la cause arabe, la cause palestinienne ?
La question palestinienne passe en second rideau, très honnêtement. D'ailleurs, comme le disait votre interlocuteur tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne parle pas des bombardements israéliens sur Gaza et des agissements des colons en Cisjordanie depuis les attaques iraniennes contre Israël. Donc la question palestinienne passe totalement en second rideau.
Sophia Marouk, on pose la question, est-ce que l'Iran peut devenir porte-parole de la cause arabe ? Est-ce que la question c'est, est-ce que l'Iran n'occulte pas totalement la cause arabe ?
Cause arabe, non. Cause palestinienne, peut-être.
La cause palestinienne, on va dire qu'elle fait partie de la cause arabe.
Alors oui et non, c'est-à-dire, enfin, je dis palestinienne parce que elle se distingue de la cause arabe depuis les années 60 un petit peu. Mais vraiment, vraisemblablement pas pour des raisons humanitaires. Même si l'Iran se dit officiellement défendre la cause palestinienne, c'est certainement pas pour des raisons humanitaires. Et ça rejoint le sujet de la propagande iranienne qui est très différent de la stratégie iranienne. L'Iran a une réelle carte à jouer sur les médias, les réseaux sociaux numériques pour manipuler l'opinion publique. Alors quand je dis manipuler, c'est utiliser pour manipuler les émotions des images, des vidéos. On voit sur notamment les canaux Telegram, sur Twitter, sur leur site web, que tous leurs contenus sont traduits en arabe. Donc les publics cibles sont aussi les publics arabes. Et c'est là que l'Iran joue la même rhétorique depuis 1979, c'est-à-dire l'injustice de la création de l'État d'Israël, une rhétorique fondée sur la défense des pays musulmans et surtout des populations, en fait. Hein. C'est une propagande très populiste.
Jusqu'où ? Jusqu'à quelle population ? Encore une fois, jusqu'à la péninsule arabique ?
Alors, pas forcément la péninsule arabique, mais regardez dans le cadre des milices. Ils ont tout intérêt à, même si les milices ont un agenda un petit peu différent.
Les milices qui sont notamment présentes en Irak.
Voilà. Donc, ces milices, elles ont des bureaux de formation idéologique, des associations de bienfaisance, des comités de propagande sur place. Et ça s'entretient. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet, mais en Afghanistan, dans la milice afghane, il y a une agence de communication. Donc, l'Iran a tout intérêt à véhiculer cette même rhétorique.
Oui, mais ça montre que, si, on ne s'éloigne pas totalement, ça montre que l'Iran continue de tisser des liens, les milices iraniennes en Irak, les Houthis au Yémen, mais finalement uniquement pour sa propre partition, pour reprendre l'expression de David Rigolet-Rose, puisque là, on est en train de répondre à la question non,
oui,
l'Iran ne peut pas devenir porte-parole de la cause arabe.
Oui, mais une partition davantage idéologique, qui sert ses intérêts, c'est-à-dire rester en République islamique, et être accepté avec ses idéaux révolutionnaires.
Et qui sont les intérêts aujourd'hui de l'Iran, parce qu'il nous reste environ une minute, mais si on peut prendre de la hauteur, c'est d'abord s'affirmer contre l'Occident, s'affirmer davantage peut-être aux côtés de la Russie, aux côtés de la Chine, dans un bal géopolitique plus vaste, qu'aux côtés des Palestiniens.
Ouais, je dirais avant tout être l'Iran, sans être contre quelqu'un. Même si la propagande est clairement contre les États-Unis, mène toute une rhétorique contre les États-Unis et contre l'Israël, qui sont les petits et grands satans dans la propagande, l'objectif est de conserver ce régime de République islamique, ce qui n'a pas été évident quand il a été créé.
Qu'est-ce que vous entendez conserver ce régime de politique islamique ? Il est remis en cause aujourd'hui ?
Il est remis en cause, oui, quand vous voyez dans les médias la volonté d'en finir avec ce régime islamique. L'objectif de l'Iran en retour, c'est de le conserver.
David Rigolet-Rose, le mot de la fin.
Oui, l'Iran, de toute façon, veut être reconnu. En réalité, il y a une attente qui n'est pas nouvelle. Veut être reconnu comme une grande puissance, sinon la grande puissance régionale. Et faire comprendre à ses adversaires, ses rivaux, que rien ne pourrait être fait au niveau de la sécurité dans la région en faisant l'économie, justement, de discussions avec Téhéran. Donc c'est, en fait, tout le reste, avec l'idée aussi de sanctuariser le pays, d'où la stratégie sur le nucléaire et la stratégie des mandataires. Effectivement, qui permet à l'Iran de développer, de faire prévaloir un certain nombre d'intérêts pour assurer son statut de grande puissance, parce qu'il est très isolé géopolitiquement en apparence, mais tout le monde est conscient que son importance est incontournable.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que je faisais du fait que finalement l'Iran est peut-être plus soucieux de son rapprochement ou du soutien qu'elle bénéficie de la Russie et de la Chine davantage que de savoir si la cause arabe elle parvient à la mobiliser?
Oui, non, incontestablement, l'Iran s'inscrit dans ce fameux axe Pékin-Moscou, en tout cas cette triangulation pour constituer un front anti-occidental. C'est ça, justement, et la cause palestinienne est un instrument régional de la stratégie iranienne au sens large. Donc, C'est ça, en fait, l'objectif de la géopolitique iranienne.
Ok, eh bien merci beaucoup, David Rigolet-Rose, chercheur spécialiste au Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS. Merci, Sophia Maroug, doctorante en histoire contemporaine de l'Iran à Sorbonne Université et à l'Université du Luxembourg. Et merci à Fatia Dazieni, chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique à l'IRSEM. C'est la fin de ce débat du jour.